Quand vous regardez, vous en avez de très limités exactement. Non, c'est pas bon.
Je ne sais pas si je vais utiliser ce micro tellement il trahit les gens.
Oui, pas l'autre. Prenez l'autre. Prenez l'autre. Les deux ont été gérés. Prenez l'autre.
Ça fait dans l'histoire de la marée. On va aller
Madame la marraine, madame la sénatrice, monsieur le représentant du premier ministre, monsieur le représentant du ministre d'État, à savoir celui de la justice et garde des Sceaux, madame la directrice régionale de l'OSA, monsieur le représentant de ONU SIDA et avec lui je m'adresse à toutes les autres organisations internationales que ce soit du système auquel j'ai une autre existence fait partie en étant chargée du programme au PAN et les représentants des autres départements ministériels distingués invités en vos grades et titres respectifs. Je suis vraiment honoré, que dis-je, privilégié d'être là aujourd'hui. Et ce jour n'a pas été choisi au hasard, figurez-vous. Le 28 septembre, c'est la journée mondiale, c'est la journée internationale pour lutter contre l'avortement clandestin ou alors pour le droit à l'accès, n'est-ce pas, à l'avortement sécurisé. Permettez-moi donc de nous souhaiter, de vous souhaiter bonne fête. Ça, c'est pour commencer. Sinon, je voudrais rappeler à l'attention des uns et des autres que tout être humain a des droits et des droits fondamentaux consacrés dans les différents textes nationaux et internationaux que le Cameroun a ratifié et a donc fait sien. Je ne vais pas revenir dessus. Je peux citer la CEDEF, je peux citer n'est-ce pas, le protocole de Maputo sur lequel nous allons largement nous appesantir. Et parmi ces droits, il y a justement, n'est-ce pas, le droit à la vie qui fait débat, à la liberté, à la sûreté de sa personne, ainsi de suite. Et je suis privilégiée, honorée d'avoir hérité d'un titre, je ne l'avais pas en arrivant. Je l'ai suivi tout à l'heure et je vais essayer surtout de le mériter, à savoir clarificatrice des concepts ou des valeurs. Alors, quels sont ces concepts? Il y en a plusieurs. Et les uns et les autres ont des droits, mais il se trouve quand même qu'il y a achoppement entre ces différents droits et il va falloir comprendre, savoir comment concilier les droits des uns et des autres. Le Cameroun est une société patriarcale et vous savez ce que ça veut dire. Mais les mœurs évoluent et inéluctablement, il va falloir changer, n'est-ce pas, évoluer avec ces mœurs. Alors, on parle beaucoup d'avortement. Il faut d'abord savoir c'est quoi l'avortement. Pourquoi est-ce qu'on n'avorte et comment est-ce que ça se passe pour qu'on puisse qualifier cela de clandestin ou alors de légal. Je voudrais dire à cet effet que le droit de la femme à disposer de son corps ou non, quand c'est reconnu, lui ouvre l'accès, n'est-ce pas, à l'avortement ou non. Mais il faut quand même savoir que il y a précarité de ce droit. Il a été reconnu, mais ce n'est pas un acquis qui est constant. J'en veux pour preuve ce qui est arrivé, n'est-ce pas, l'année dernière aux États-Unis, où après pratiquement un demi-siècle de droit, le gouvernement conservateur est revenu sur ce droit, ce qui a suscité, j'allais dire, un tsunami mondial. Tsunami mondial, pourquoi? Parce que je vais prendre quelques réactions, il y en a eu à travers le monde, mais je pense surtout à celle des Françaises qui, ayant subodoré, n'est-ce pas, le danger, ont entrepris des démarches et c'est à tout à l'heure ou heure, d'avoir réussi à constitutionnaliser ce droit qui dorénavant va quand même être un peu plus difficile à être attaqué. Alors, pour faire ce travail de clarification, je voudrais commencer par déconstruire, parce que si on dit qu'il y a clarifié, c'est qu'il y a, il y a des polémiques, il y a des controverses. Alors, il y a controverse sur quoi? Et pourquoi il y a controverse? Est-ce que les arguments tiennent la route? Est-ce que vraiment ils sont pertinents? Et donc, je vais commencer, avec votre permission, de déconstruire, c'est vrai, la critique est aisée, mais là, ne l'est pas. Donc, je vais m'efforcer, après avoir déconstruit, n'est-ce pas, de reconstruire. Alors, commençons par la déconstruction. Pour faire la déconstruction, qui est une œuvre titanesque, en sa délicatesse, je me suis permis de retenir trois secteurs, parmi lesquels, quand on parle d'avortement, les drapeaux commencent à être, n'est-ce pas, levés. Il y a d'abord la religion, il y a les mœurs, et enfin, la législation. Alors, dans les mœurs, dans la religion, on va dire que, en réalité, aucune religion au monde, que ce soit les religions chrétiennes, que ce soit les religions catholiques, que ce soit les bouddhistes, les islamistes, les musulmans, aucune religion, et même au point de vue idéologique, n'a été favorable aux femmes. Aucune. Même pas. On a dit, on a stigmatisé, n'est-ce pas, le capitalisme, mais ce n'est pas seulement le capitalisme. Les femmes n'ont pas été mieux loties avec le socialisme. Qu'à cela ne tienne, je vais revenir maintenant sur ce qui pose problème au niveau des religions. C'est précisément la religion catholique à laquelle pourtant j'appartiens, mais il faut savoir quelquefois prendre du recul quand il le faut, qui compte parmi les farouches défenseurs, n'est-ce pas, de l'avortement. À tort ou à raison, on le verra bien. Alors, ils se fondent sur quoi? Ils se fondent sur ce que un des 10 commandements dit, tu ne tueras point. C'est vrai, ce n'est pas bien, mais il faut qu'on s'accorde sur une chose ici. Est-ce que l'avortement consiste effectivement à tuer? S'agit-il d'êtres humains dans ce cas d'espèce? Et on va donc comprendre si effectivement le principe sacré de « tu ne tueras point » a toute sa raison d'être. Tu ne tueras point. L'avortement, la définition que n'a malheureusement pas eu à faire le législateur camerounais dans le code pénal, lui s'est simplement contenté de commencer à sévir. L'avortement, en principe, c'est l'interruption, n'est-ce pas, d'une grossesse. Et la grossesse commence et elle se développe avant qu'on aboutisse à un être humain. Donc, ce sur quoi se base, se fonde la religion catholique, c'est que il y a déjà un être humain dès le départ. Or, les sachants en matière scientifique nous disent que ce n'est encore qu'un œuf. Lorsqu'il y a rencontre entre une ovule et un spermatozoïde, il y aura ovulation, fécondation, mais nous ne sommes pas encore à un être humain en tant que tel. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'à ce stade, on puisse déjà parler de tuer un être humain. Parce que si on considère à ce stade qu'on parle d'être humain, il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause. Est-ce à dire que dès le premier jour, il y a déjà un être humain? Non. Je vais simplement, en raison du temps qui m'a été imparti, dire que nous mangeons les omelettes tous les jours, n'est-ce pas? Mais est-ce que à dire que ce sont les poulets que nous mangeons? Nous mangeons les œufs. C'est aussi pour dire que, n'est-ce pas, l'œuf évolue. Lorsqu'il y a un œuf, si nous adoptons la position des religions chrétiennes qui critiquent l'avortement,
ça veut dire qu'il y a un rejet où on ne reconnaît pas, par exemple, la fécondation in vitro, où on laisse d'abord couver, n'est-ce pas, pendant un certain temps, les œufs, fussent-ils humains. Donc, les scientifiques ont prouvé qu'en réalité, indépendamment de l'évolution, il y a un problème d'autonomie. Le fœtus doit être autonome, que ce soit la respiration, l'articulation. Or, ce n'est pas avant 180 jours pour nous les juristes qu'on peut dire qu'il y a déjà un être humain. Et ça a un impact sur la qualification des faits. Est-ce que lorsque on agresse une femme qui est enceinte, on parle d'assassinat? Non. On dit que la personne a, il y a monsieur, il y a homicide pour une seule personne, alors que si on épousait la thèse selon laquelle c'était déjà un être humain, logiquement, on aurait dû parler de deux homicides. L'assassinat, l'homicide ici ne peut donc pas jouer. Pour tous ces arguments, tu ne tueras point. D'ailleurs, lorsque les religieux nous disent « tu ne tueras point », est-ce qu'il n'y a pas eu des guerres de religion? Il y a eu des guerres de religion pendant... Alors, est-ce qu'eux-mêmes respectent ce principe de « tu ne tueras point » Non. En réalité, cette conception d'estimer qu'il y a déjà, dès la conception, une âme dans ce qui est à appeler à être un être en devenir, une personne en devenir, elle procède de la conception d'Aristote. Et parmi, pour vous dire que tout ça est fondé sur la discrimination, vous savez qu'en principe, on ne connaît pas le sexe des anges. Mais il y a quand même eu une discussion au sein justement de toutes ces saintetés, où d'ailleurs, Thomas, qui est assez crédule, dit que parmi les anges, si on doit considérer ceux, toujours pour la discrimination, pour montrer que la femme est un être un peu à part, Thomas estime donc que les hommes, pour eux, c'est à partir de, je crois, 40 jours où on détecte le sexe, ça veut dire qu'il conçoit quand même qu'il y a évolution, et que pour les femmes, c'est le double. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours un peu plus pour elles. Bon, on peut le leur accorder, car cela ne tient pas en réalité. Les arguments, n'est-ce pas, posés par la religion, objectivement, ne tiennent pas la route sur la base des démonstrations scientifiques et pas dogmatiques, parce qu'on comprend que la religion, vraiment, ne fait pas l'objet de débat. Alors, sur le plan social, on nous a dit qu'il y a des stigmatisations. Sur quoi reposent ces stigmatisations? Elles reposent sur la croyance, à raison ici, que ce qui importe au plan social, c'est la famille. Et pourquoi? Parce que la famille est le socle, n'est-ce pas, de toute société humaine. Mais de quoi est faite la famille? Il faut procréer. Et qui procrée? C'est bien entendu l'homme et la femme, mais c'est quand même la femme qui porte l'enfant pendant 9 mois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la procréation devient un devoir sociétal pour les femmes. Or, les sociétés africaines, avec raison, considèrent que la famille est importante, mais par rapport à la stigmatisation, il y a le fait qu'on considère que c'est la famille légitime qui est positive. Et à partir de là, dès que vous sortez de ce créneau, vous commencez déjà à être stigmatisé. Pour procréer dans la famille naturelle, ça a évolué. Avant, quand vous étiez fille, mère, vraiment, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, c'est de plus en plus admis. On ne peut pas dire que c'est permissif, mais alors, dans la procréation, la stigmatisation vient du fait que quand vous ne pouvez pas procréer dans notre société, on ne vous respecte pas, ou on vous regarde avec des yeux pas très aimables. Et même quand vous procréez, il y a déjà un souci par rapport à la femme. Pourquoi? Parce qu'il faut, dans cette société patriarcale qui est la nôtre, garantir, n'est-ce pas, la suite, c'est-à-dire l'héritier. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de ménages qui ont été détruits parce qu'il n'y avait pas le garçon, il n'y avait pas l'héritier. Tout ça constitue des valeurs qui font en sorte que quand on sort, n'est-ce pas, de ce schéma, de cette chape, on est stigmatisé à plus forte raison. Donc, quand vous allez avoir une grossesse et que vous songez à tort ou à raison, n'est-ce pas, à l'évacuer. Donc, l'objectif ici pour nous, c'est de dire que les choses évoluent. On devait avoir des enfants, on devait avoir des garçons. Aujourd'hui, il y a quand même égalité, n'est-ce pas, dans la société entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas une égalité parfaite, ce n'est même pas celle-là qui est tellement recherchée. Mais c'est la même projection qu'on observe au niveau de la famille. Famille légitime, mais de plus en plus, on observe qu'il y a des familles naturelles avec des familles monoparentales. Je pense même que en regardant ailleurs, les gens ont transcendé le concept de famille au point où ce n'est plus le mariage entre des personnes, n'est-ce pas, de sexe différent, mais plutôt des personnes de même sexe. Donc, je voudrais vous montrer comment l'évolution des mœurs, elle n'est pas égale dans toutes les sociétés, mais c'est ça l'objet de stigmatisation. Quand vous sortez, n'est-ce pas, des schémas. Et enfin, au niveau de la déconstruction, la législation. On l'a déjà dit tout à l'heure, notre législation est assez prohibitive. Je voudrais rappeler à tous, parce que beaucoup de gens disent que dans notre on n'autorise pas l'avortement au Cameroun. Non, ce n'est pas vrai. L'avortement est autorisé au Cameroun, mais il est simplement balisé. Peut-être que nous voulons qu'on desserre un peu les taux, mais on ne peut pas nier, n'est-ce pas, que l'avortement ne soit pas autorisé au Cameroun. On l'a dit, s'il y a viol, les process sont longs, compliqués, mais je tenais quand même à rectifier cela. Cela étant dit, la procédure est compliquée, la procédure est longue, les gens n'ont pas assez de moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, faire face aux dépenses qu'implique l'avortement. J'ai essayé de jeter un regard, je me réjouis de ce que monsieur le représentant du ministre de la Santé nous a dit qu'il fallait capitaliser des expériences d'ailleurs. Justement, j'ai essayé de regarder ce qui se fait ailleurs et j'ai pris deux pays phares, la France, et vous allez comprendre pourquoi, et les États-Unis, où j'ai eu l'honneur de servir comme enseignante également. Alors, à titre de droit comparé, nous prenons le droit français pour plusieurs raisons. C'est le pays qui inspire, n'est-ce pas, notre législation en raison de l'histoire de nos pays. Je ne l'ai pas pris seulement pour cette raison. Auparavant, pour montrer que nous devons faire un effort, n'est-ce pas, d'évoluer, mais sans mimétisme. Il n'est pas important de faire absolument comme les autres. En France, au lendemain de la guerre, de la Première Guerre mondiale, la Troisième République, l'impact, n'est-ce pas, de la natalité était fort. Au point où, et ça se ressentait sur la législation, je prends la loi du 31 juillet 1920, où l'avortement était considéré comme un crime. Pourquoi? Parce qu'il y avait des politiques de natalité. La France venait de perdre la guerre avec l'Allemagne et il fallait surtout des hommes, la ressource humaine, au point où, quand vous vous amusiez à aller à l'encontre de ceux qui pouvaient procurer la ressource humaine, vraiment, la sanction était forte. La sanction était forte parce que cette loi, je vais prendre deux petits exemples. Deux dames se sont permis d'informer les gens, donner simplement l'information. Elles ont été traduites aux assises. Plus grave, une d'entre elles a pratiqué l'avortement. Vous savez ce qui lui est arrivé? Elle est passée sous le chapeau, purement et simplement décapitée. Voilà dans un pays, n'est-ce pas, où le contexte, je voudrais vraiment qu'on comprenne que le contexte joue, la perception qu'on a à un instant T de la société fait en sorte que la législation soit un peu plus permissive ou non. On peut taxer cette législation de trop sévère, mais en la replaçant dans le contexte où les Français avaient besoin d'aide de ressources humaines, précisément pourquoi, à quoi servait cette ressource humaine? C'était des combattants, parce qu'on était dans l'esprit de la guerre. Je veux présenter ça comme ça, sinon de plus en plus, compte tenu de l'environnement aujourd'hui, beaucoup de gens disent que la ressource humaine, ce ne sont pas les combattants, mais c'est également la chair à canon. Parce qu'on a une perception. Mais en 1975, après mûrissement, n'est-ce pas, de la pensée, de l'observation de la société, il y a eu une loi qu'on dit loi Veil qui a libéralisé, qui a accordé le droit à l'avortement aux Françaises. Ça a été un long processus parce que vous allez voir dans les documents, il y a eu au moins 10 réformes. On a accordé la loi et c'est en cela que je fais des recommandations pour qu'on s'inspire, sans toutefois faire du copier-coller, de cette loi de 73-75 en France qui a été perfectible et elle s'est améliorée au fil des ans sur beaucoup de critères. Je reviendrai sur ces critères au moment de la reconstruction sur les recommandations. De quel autre pays j'ai voulu parler? Des États-Unis. Des États-Unis, pourquoi? Parce que l'enjeu sur l'avortement aux États-Unis est tel que ça se répercute, comme c'est le cas même actuellement, sur l'élection présidentielle. Il faut prendre position. Il y a deux dates aux États-Unis qui sont importantes quand on parle de l'avortement. Il y a 1973 et 2022. En France, c'est 1975. Aux États-Unis, c'est 1973. Pourquoi? Avant 1973, 4 États seulement, sur plus de 50, avaient autorisé, n'est-ce pas, l'avortement. Et en 1973, intervient une décision de la Cour suprême des États-Unis, qui est donc une institution fédérale, qui accorde le droit à l'avortement à toutes les Américaines. Donc, tous les États sont astreints, n'est-ce pas, à respecter cette décision. Ça a bien fonctionné pendant 50 ans presque. Mais quand je dis fonctionner, cela n'empêche pas qu'il y avait des tensions parce que les États-Unis est un pays extrêmement clivé sur cette question-là. Vous avez des gens pro-life et les autres pro-choice. Pro-life, c'est ceux qui défendent, n'est-ce pas, la vie, et pro-choice qui disent non, on peut choisir. OK? Et arrive donc en 1973, c'est un arrêt contre Wade. Tout le monde est content et les tensions ne sont pour autant pas exacerbées, elles ne sont pas calmes. Il y a des lobbies, n'est-ce pas, liberticides, qui militent pour que cette décision, cette juridiction-là soit annulée. Ils vont réussir en 2022, au mois de juin, et donc on revient, n'est-ce pas, à la situation qui prévalait, où chaque État va maintenant être libre de décider s'il accorde ou non le droit à l'avortement. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul. Et il y a même la prime à la délation. Vous savez que les Américains aiment toujours dire « wanted » pour tout, même si on soupçonne seulement que vous avez encouragé les gens à faire l'avortement, on vous donne une prime. Ça vous dit si les gens ne veulent pas du tout en entendre parler. Évidemment, tout ça fait donc que le droit, n'est-ce pas, à l'avortement fait problème dans tout le monde entier. Mais revenons à notre triangle national. Nous avons critiqué parce que la religion s'oppose, n'est-ce pas? Le Cameroun s'est illustré à ce moment-là, vraiment au niveau le plus élevé, le clergé, feu cardinal Toumi de regrettée mémoire, avait pris la tête, n'est-ce pas, du combat. Dans la reconstruction, j'ai reconsidéré, pas les mêmes secteurs, mais le droit, j'ai reconsidéré le volet médical et enfin les politiques. Alors, commençons par l'encadrement médical. S'il faut changer, Je voudrais rappeler ici qu'il ne s'agit pas de la libéralisation, n'est-ce pas, de l'avortement, mais simplement un assouplissement pour que tout le monde trouve son compte. Alors, je voudrais m'appesantir pour cet encadrement médical sur la charte dite de Livingstone. Les gynéco-obstétriciens dans la salle ou ailleurs savent que c'est vraiment quelque chose de positif. C'est une charte qu'on applique dans 11 pays africains seulement sur les 54, mais parmi lesquels compte heureusement le Cameroun. Et cette charte a 7 points prioritaires, les soins sécurisés, l'information, n'est-ce pas, la dépénalisation, et également qu'on mette l'accent, la discussion avec les jeunes, les groupes vulnérables, parce qu'ils sont stigmatisés et les gens se cachent. C'est ça qui fait en sorte qu'on dise que maintenant, non, l'information doit passer. Et j'ai eu le bonheur de suivre le président de l'association camerounaise, qui n'est autre de gynéco-obstétrique, qui n'est autre que le professeur Mboudou, qui est très positif dans son analyse, mais il est lucide, il est réaliste. Il dit que oui, ils ont signé la charte de Livingstone, mais il y a quand même des blocages, il y a des résistances. C'est pour ça que lorsque Madame la sénatrice bat le tam-tam pour que tous on converge, qu'on devienne des combattants, c'est vraiment pour dire que... Et ce n'est pas un problème uniquement médical. C'est un problème juridique, c'est un problème moral, c'est un problème religieux. Tout le monde est concerné. Et donc, cette charte a procuré beaucoup de choses dont il faut s'inspirer. Pour le moment, elle est déjà opérationnelle au Cameroun, mais il y a quand même des problèmes. Au niveau de l'apport juridique, il faut changer la loi, il faut la changer. Mais comment on espère, n'est-ce pas, que les techniciens, c'est-à-dire les professionnels de santé, vont permettre aux juristes de travailler. La légistique n'est pas les compétences en matière médicale. Donc, ils permettent de comprendre, de donner une définition appropriée de l'avortement avant qu'on puisse sanctionner. Et même lorsque nous parlons de la dépénalisation, il faut les gens, les professionnels de santé et nous avec, pensons, dans l'intérêt de la société, qu'il faut supprimer les sanctions aussi bien civiles que pénales. Et enfin, alors, au niveau, n'est-ce pas, de l'administration et des politiques, il faut choisir en fonction de l'intérêt de l'enfant et de la femme. Est-ce que nous voulons avoir des politiques natalistes ou non? Est-ce que nous voulons avoir des politiques qui tiennent compte de l'intérêt de la femme ou de l'intérêt de l'enfant? Ça, c'est très important pour qu'on puisse donc conclure, et c'est mon propos. Je dis donc que, en apportant, n'est-ce pas, l'allée de la clarification des valeurs dans la croisade contre les avortements clandestins dans notre pays, l'apologie de ce fléau était écartée. Donc nous ne disons pas, oui, on va tout libéraliser, les filles, allez-y, non. Et si la fémocratie n'a pas encore droit de citer dans la sphère publique, d'une part, il faut définitivement jeter aux oublis le déni persistant à la femme de son droit de disposer librement de son corps, tel que diversement énoncé, n'est-ce pas, dans l'article 14 du protocole de Maputo. Pourquoi j'ai parlé de déni persistant? Parce que déjà, les rédacteurs du Code civil de 1804 en France, qui nous inspire, avaient déjà tenu des propos vraiment insoutenables et en ces termes. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Elle est donc sa propriété, comme l'arbre à fruits est celle du jardinier. Je dis que ma réponse est, il est indispensable de se convaincre, n'est-ce pas, pour la majorité, hélas, qui doute encore que tant bien dans le triangle national, c'est-à-dire au Cameroun et même au-delà, on ne naît pas mère, on le devient et on devrait le devenir par choix délibéré. Mesdames, Messieurs, distingués invités, Excellences, j'aurais été honorée de votre bienveillante écoute. Merci.
Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort?